RFI, grand reportage,
Charlotte Hydrac.
Bonjour. À l'occasion des commémorations des 25 ans du génocide des Tutsis au Rwanda, RFI donne la parole à la diaspora. Ils sont rwandais ou d'origine rwandaise. Ils habitent en Belgique, aux États-Unis, au Canada ou en France. Alors comment abordent-ils ces commémorations? Comment envisagent-ils la réconciliation? Quelles relations les moins de 25 ans entretiennent-ils avec la mémoire du génocide? Les voix de la diaspora, un grand reportage de Pascal Guéricola, Lax Milota, Grégoire Portier et Laura Martel.
Il s'appelle Jean de Dieu Rwamiyare, ou Bonhomme, comme on le surnomme au Rwanda. Il est venu de Kigali pour participer aux commémorations organisées à Paris par l'association Ibuka, Souviens-toi, en Kinyarwanda. Devant l'assemblée, venu écouter des récits de rescapés au mémorial de la Shoah, Bonhomme chante les émotions et les dernières paroles des victimes du génocide, inspirées de témoignages qu'il a recueillis et de sa propre expérience de survivant.
Pour moi, la chanson est la meilleure voie pour parler du génocide. C'est avec le chant que je suis le plus à l'aise pour m'exprimer et il me permet de toucher beaucoup plus de monde. Parce que les gens aiment la musique. Au-delà des paroles, ils se laissent prendre par l'émotion de la chanson. Et je pense que ça permet de mieux faire passer le message qu'un livre ou que tout autre discours.
En effet, alors que l'assistance absorbe les durs récits des rescapés en silence, une vive émotion submerge la salle à l'écoute d'une chanson dans laquelle une mère supplie son bourreau de la tuer mais d'épargner ses enfants. Plusieurs femmes s'emparent alors du micro pour témoigner.
Ma grande sœur avait 5 enfants. L'aîné avait 12 ans. L'avant-dernier, je pense 2 ans, il a demandé à sa maman qu'il a faim. Elle est partie, elle était avec 4 enfants et ils ne sont pas arrivés loin. Ils ont commencé à tuer. Elle a demandé, tire-moi, moi toute seule, mais pas mes enfants. Mais malheureusement, on l'a tué après ses enfants, après avoir tué ses enfants. Au fait, ça fait longtemps, j'ai jamais... Enfin, je ne trouvais pas les larmes, mais cette chanson, je l'ai trouvée dans mes yeux. Je ne sais pas comment je peux vous expliquer.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup pour tes mots, bonhomme. Ça fait mal, vous nous entendez pleurer, vous nous entendez crier, mais ça fait aussi ça du bien. Tu mets les mots là où beaucoup n'ont pas pu les mettre. Hein. Et il y a vraiment beaucoup d'abcès qui crèvent à cause de vous. On peut juste vous dire merci.
Merci beaucoup.
À New York, c'est aussi au mémorial de la Shoah, le musée du patrimoine juif, qu'auront lieu les commémorations. Jacqueline Mourekatete, présidente de la Fondation des survivants du génocide, est l'une des organisatrices des commémorations depuis plusieurs années. Mais pour elle, ce 25e anniversaire risque d'être particulièrement difficile à vivre pour les rescapés.
Ça fait 25 ans que le génocide a eu lieu, mais pour nous, c'est comme si c'était hier. Quand arrive le mois d'avril, beaucoup de rescapés font encore plus de cauchemars. On revoit les tueurs nous poursuivre avec leurs machettes. Le souvenir de nos proches est particulièrement présent. On se dit, ah, si ma mère, si ma sœur était là, quel âge auraient mes frères maintenant? C'est un moment de l'année particulièrement éprouvant. C'est le cas chaque année, mais lors des grands anniversaires, comme les 10 ans, ou aujourd'hui les 25 ans du génocide, il y a beaucoup plus d'intérêt des médias et du grand public. Entre les sujets d'actualité, les documentaires et les témoignages, le génocide est partout. C'est ce qui rend ces grands anniversaires plus difficiles encore à vivre pour les rescapés.
Malgré tout, elle estime qu'il est de son devoir de témoigner.
Au moment du génocide, j'avais 9 ans. J'ai perdu mon père, ma mère, mes frères et sœurs, la plupart de mes tantes, mes oncles, mes cousins, la majorité de ma famille élargie a aussi été assassinée. Pourquoi moi j'ai survécu? Cette question hante beaucoup de rescapés. Je suis toujours là, alors que mes parents, mes frères, mes sœurs sont morts. Mon plus jeune frère n'avait que quelques mois. Il ne connaissait même pas son propre prénom, et encore moins, bien sûr, sûr, le nom de son ethnie. On est nombreux à être tourmentés par cette question. Pourquoi nous? Nous avons survécu. Mais le fait est que nous sommes là et qu'il y a une raison à ça. Une partie de cette raison, selon moi, est de dire au monde ce qui s'est passé au Rwanda, que tous ces gens ont été tués. Pas parce que c'était des criminels, pas à cause de quelque chose qu'ils auraient fait, mais seulement pour ce qu'ils étaient. Être Tutsi était un crime qu'il fallait payer de sa vie. En tant que rescapés, on se doit de faire savoir tout cela au monde entier, pour honorer la mémoire de nos proches, mais aussi pour mettre en garde contre d'autres génocides, parce qu'on ne cesse de répéter plus jamais ça, mais jusqu'ici, ça reste de vaines promesses.
Si certains rescapés arrivent à transcender la douleur pour perpétuer la mémoire du génocide, pour d'autres, il est toujours impossible de dire l'impensable, même à des milliers de kilomètres du Rwanda, même 25 ans plus tard. Mathilde vit à Bruxelles depuis 20 ans. Elle est venue à un colloque intitulé « 25 ans après, connaître, juger, transmettre ». Mais aujourd'hui encore, Mathilde n'arrive pas à parler de ce qui lui est arrivé.
C'est très difficile, ouais, à gérer, mais on essaye de vivre avec. Il faut se souvenir, il ne faut pas oublier.
Est-ce qu'il y a des groupes de parole? Vous allez voir quelqu'un? Est-ce qu'on met des mots ou pas du tout?
De ma part, non, pas du tout. C'est encore vif, si je... Et j'y arrive pas, mais un jour peut-être, parce qu'il faut. Il faut mettre les mots sur ce qui nous est arrivé. J'espère que je vais y arriver.
Pour faire face au traumatisme, Tassienne s'est lui fabriqué ce qu'il appelle une potion magique.
Pendant les commémorations, d'un moment à l'autre, on peut vaciller. Personnellement, j'ai un slogan que j'aime répéter. Nous sommes en vie, nous sommes rescapés pour une certaine mission. Nous avons à venger le nôtre en vengeant la vie. Nous devons donc réussir la vie. Et donc pour cela, nous devons rester debout face au traumatisme. C'est un slogan, mais ça finit par s'imprégner dans notre être. C'est la potion magique que j'utilise. Depuis toujours, je me souviens, je sais que je dis « Vengez la vie, soyez plus fort que les tueurs ».
La première chose que l'on remarque dans le salon de Félicité Liamoukourou, ce sont les portraits de ses enfants. Calista, Mikal, Bouki et Kobi sont âgés de 12 à 15 ans. C'est aussi pour eux qu'elle a voulu écrire son livre « L'ouragan a frappé Nyondo ». Félicité avait 15 ans au moment du génocide. Sa famille a été décimée, elle et son petit frère sont les seuls rescapés. Écrire était pour elle une impérieuse nécessité.
En Kinyarwanda, on dit « Abuze n'okubari nkuru ». Ça veut dire qu'il n'en est pas resté un seul pour raconter leur histoire. Au Rwanda, nous dénombrons beaucoup de familles qui ont été totalement éteintes. Donc c'est un devoir de témoigner quand on a survécu à une telle catastrophe, à un tel génocide, vraiment.
L'écriture a été pour Félicité une forme de thérapie et la publication de son livre un soulagement.
Un ouf de soulagement, oui. On a l'impression qu'on a déposé un poids. Je dois dire aussi qu'au départ, parmi les choses qui me motivaient absolument d'écrire, c'est qu'on a peur d'oublier, en fait. On a peur d'oublier leurs noms, les noms des voisins, des amis. Je raconte aussi que, par exemple, parmi tous mes frères, ma petite sœur qui avait 5 ans, quand je recherche son image, elle me fuit. Parce qu'on a vécu peut-être très peu ensemble. On a vraiment peur d'oublier et c'est presque un tort pour eux, pour tout ce qui s'est passé.
Pour le psychologue Jean-Pierre Douzinguiz et Mungu, les commémorations constituent effectivement un nouveau traumatisme, mais aussi, selon lui, un mal nécessaire.
Il y a cette transmission de traumatisme pour les autres générations, mais aussi il y a la transmission des éléments de résilience. Donc il y a une double transmission et il faut savoir jouer avec tout ça pour aider les gens à exprimer leurs émotions, mais aussi à pouvoir se reconstruire.
La parole est désormais possible dans la famille de Félicité. Ses enfants évoquent parfois le génocide.
Maintenant, on trouve des moments, en tout cas, d'une façon simple. Ça peut venir à table, une question. On évite de rentrer dans les détails, hein, parce qu'ils n'ont pas besoin parfois de tout savoir à leur âge. Mais ça vient. On a parfois des moments d'en parler. Et ils sont très, très sensibles de se dire que leur maman souffre peut-être. Et alors, on doit les rassurer aussi. Je dois rassurer, je ne dois pas leur montrer toute cette souffrance. Et donc on essaie de se soigner comme ça.
Silence, potion magique ou écriture salutaire, les manières de gérer le traumatisme varient selon les personnes au sein de la diaspora. Tout comme varie l'évaluation des progrès de la réconciliation. Au Canada vivent environ 10 000 Rwandais. Parmi eux, le père Gustave Saint-Guillaume va. Arrivé en 2007 dans le pays de la neige et du froid, le père Gustave est vicaire dans plusieurs églises de la ville de Québec. Le prêtre participe rarement aux événements officiels de commémoration du génocide. Lui qui fêtait ses 17 ans au Rwanda en ce funeste 7 avril 1994 s'interroge sur la réalité de la réconciliation au sein de la diaspora.
25 ans, c'est peut-être pas assez pour réconcilier les uns et les autres. Je vois cela dans la diaspora d'ici au Canada. Les gens se regardent un petit peu encore avec méfiance, je dirais. Il y a une communauté officielle de Rwandais, mais quand on les fréquente de près, on se rend compte que tout le monde n'y est pas. C'est ceux qui se sentent le plus à l'aise avec les visions du gouvernement actuel à Kigali qui vont peut-être représenter une bonne partie des personnes que je rencontre dans ces milieux-là. Les autres, je crois, peut-être ont un peu peur de quel regard peut être posé sur eux. Est-ce que le fait du génocide a fait que certaines personnes, de la majorité ou tous, si j'ose dire les choses comme ça, se sentent un petit peu moins bienvenues dans des rencontres où il y a des survivants du génocide qui a ciblé les Tutsis en priorité? Peut-être que chez les Hutus, chez des certains Hutus, un certain sentiment, un certain complexe d'être associé ou identifié à ceux qui ont manié la machette ou qui étaient d'une façon ou d'une autre complices, même passifs, de cette barbarie. Je comprendrais très bien que l'on soit mal à l'aise, qu'il y ait une certaine gêne. Je me rends compte que la réconciliation prendra encore un peu plus de temps.
De son côté, Marie-Louise Ndikubwimana, une Rwandaise d'origine rencontrée dans un café de Québec, a le sentiment que la réconciliation a bien progressé, du moins au Rwanda.
Grâce à la politique de réconciliation nationale qui est mise en place au Rwanda, c'est plus ceux qui arrivent du Rwanda qui ont mis de côté cette histoire-là que ceux qui sont ici. Toutes les personnes qui arrivent du Rwanda, tu vois bien que la différence où tout n'existe plus là-bas. Les gens, quand ils arrivent ici, ils viennent nous voir, ils participent aux activités de commémoration du génocide. Alors qu'il y en a d'autres qui sont ici depuis plusieurs années, qui eux se tiennent à l'écart. Ici, les gens, souvent, ils ne se connaissent même pas, puis ils ne sont pas obligés de se côtoyer, c'est ça. Alors que là-bas, ils vivent ensemble, ils travaillent ensemble, ils vont à la même école. Ils sont forcément obligés d'apprendre à vivre ensemble, puis à mettre de côté les différences, puis à focusser sur ce qui les unit plutôt que ce qui les divise.
Pour Joachim Muterizare, président de l'Association des Rwandais à l'étranger, si les distinctions sur la base de l'origine ethnique ont tendance à perdurer au sein de la diaspora, cela découle notamment de la culture de sa terre d'adoption.
Nous avons épousé les valeurs ici. Si on peut dire que la société occidentale est plus individualiste que collective, parce que les gens, chacun, se suffit. Il n'a pas besoin de son voisin. Ce n'est pas le cas au Rwanda. Alors, cette chose favorise que les gens qui ne soutiennent pas les efforts de développement du Rwanda, ils vont utiliser la carte ethnique. Ceux qui sont ici et qui étaient les tenants des régimes précédents, ils ont de la difficulté à accepter ce qui s'est passé. Et ils continuent à dire que les Hutus sont mal représentés dans le gouvernement. Il faut dire que le gouvernement est plutôt Tutsi que Hutu, nonobstant la constance démographique. Mais ce n'est pas vrai.
Ces distinctions entre Hutu et Tutsi sont-elles toujours pertinentes aux yeux des moins de 25 ans, où la génération de la diaspora née après le génocide incarne-t-elle déjà la réconciliation? Comment cette génération aborde-t-elle la mémoire de 1994? Meredith a 19 ans et vit dans l'Oise, au nord de Paris. Être Hutu fait partie de son identité, mais elle refuse que les stéréotypes qui y sont attachés la définissent.
J'ai déjà eu affaire à des personnes qui me demandaient si j'étais Hutu et Tutsi. Et quand je répondais que j'étais Hutu, ils disaient « Ah, tu fais partie des meurtriers ». Du coup, comme j'étais assez petite, j'ai pas vraiment relevé sur le coup. Mais c'est très blessant et c'est injuste parce qu'on nous colle une étiquette, des actes qu'on n'a pas forcément fait en fait. Enfin, j'ai l'impression qu'on n'a pas le recul nécessaire de se dire que c'est une toute autre génération. C'est pas le même pays, c'est pas les mêmes mentalités. C'est assez triste, c'est même ridicule en fait. Parce que pour moi, il n'y a pas la maturité de se dire que ça a été perpétré par des personnes qui sont pas du tout les mêmes aujourd'hui.
À côté d'elle, sa copine Colette, 19 ans aussi, née d'un couple mixte, acquiesce. Sa mère lui a parlé du génocide, mais elle ne tient pas forcément à savoir les détails de ce qui s'est passé dans les deux branches de sa famille.
C'est pas des choses que je vais chercher à aller creuser, parce que, enfin, comme il y a des personnes qui ont perdu la vie, il y a du respect à avoir envers eux et leur mémoire. Mais je pense que la nouvelle génération, nous, on est dans une optique où on vit ensemble, on voit pas ce qui s'est passé dans le passé, donc on va se mettre à côtoyer les personnes avec qui on s'entend le plus, tout si, peu importe. Donc je pense que nous, on est plus dans une optique où il y a moins de stigmatisation là-dessus, en fait. Donc bien sûr, la commémoration, c'est important, mais le mieux à faire, c'est d'avancer.
Pour Colette, être en France peut paradoxalement rendre le poids du génocide plus lourd à porter, car beaucoup de Français ne voient le Rwanda que par ce prisme, dit-elle.
C'est limite, on va dire, la seule chose qu'ils connaissent du Rwanda, donc on va forcément nous en parler. C'est peut-être pour ça que j'ai envie que les gens un peu oublient, pas oublient l'acte en soi, mais qu'ils oublient que Rwanda égale génocide, massacre, etc. J'ai envie que les gens un peu aient une nouvelle image plus positive. À force, en fait, c'est un peu lourd pour nous, la nouvelle génération, parce qu'on doit expliquer toute une histoire qui n'est pas forcément très clair. On ne sait pas forcément comment prendre le sujet et on n'a pas le choix en fait de ne pas y répondre parce que c'est devenu notre identité, la seule chose sur laquelle les gens se réfèrent en fait quand ils parlent du Rwanda.
En fait, pour Colette et Meredith, la mémoire du génocide ne devrait plus peser que sur les seuls Rwandais. Elles souhaitent que l'universalité d'un tel crime entre vraiment dans la conscience collective pour servir de leçon à l'humanité. Plus jamais ça, c'est aussi le message d'Anna, franco-rwandaise de 20 ans et fille de rescapée. Sa mère lui a transmis très tôt la mémoire de 94.
Le mot génocide, elle me l'a appris vraiment très jeune. Même quand j'étais en poussette, elle m'emmenait à des manifs ou à des commémorations. Donc du coup, oui, ça fait partie de mon identité parce que en fait, c'est un peu aussi, entre guillemets, grâce au génocide que je suis née. Parce que si ma famille n'était pas morte, ma mère ne serait jamais venue en France. D'une certaine manière, je remercie ma famille de s'être sacrifiée pour moi, pour que je puisse être là.
Si transmettre la mémoire du génocide et honorer les disparus est crucial pour elle, Anna ne veut pas être prisonnière du passé.
On devrait peut-être arrêter de se définir comme des victimes ou alors définir les autres comme des bourreaux. Parce qu'après, il y a des gens qui sont Hutus, qui n'ont pas perdu leur famille, mais qui ne fonctionnent pas. Et on devrait parler des problèmes, quels qu'ils soient, religieux ou même ethniques. On devrait finalement se rassembler autour de notre nationalité. Parce que les victimes vont dire oui, on a souffert, certainement. Et genre, je les soutiens vraiment dans leur peine. Mais c'est pas pour autant qu'on devrait se définir par notre passé, même si il reste dominant, mais il faut qu'on avance tous ensemble. Et même pour les gens qui sont proches finalement du pouvoir de Hibarimana ou bien même de tueurs, de se demander pardon, mais il faut que ce soit vraiment un pardon qui soit vraiment sincère et pas politique. Et ce qui est assez compliqué, c'est que en fait maintenant avec le Rwanda, il y a un discours qui est assez manichéen en disant que les Hutus sont tous des tueurs, que les Tutsis sont des gentils, et ça l'est pas forcément. En fait, ces étiquettes-là, même si officiellement elles n'existent plus, elles sont quand même dominantes et il faudrait qu'on ait des relations qui soient pas strictement politiques, mais sincères et une relation de fraternité. La solution, c'est pas forcément de renier qui on est, mais surtout redéfinir qui on veut être, qu'est-ce qu'on veut dire finalement aux futures générations.
Mémoire du génocide, les voix de la diaspora, un grand reportage de Pascal Guéricola, Lax Milota, Grégoire Portier et Laura Martel, réalisation Eva Piedel.